Comme vous le savez, on a un petit groupe qui s'appelle le groupe d'enseignement et on avait décidé, il y a quelques mois, de travailler à plusieurs. Alors, il y a eu un premier groupe, celui des femmes, avec il y avait Suzy, il y avait Andrea et puis Christine. Voilà. Et maintenant, c'est au tour des hommes. Alors, cette fois, il y a Jean-Marc, Olivier et moi. Et on devait choisir un sujet. Et Jean-Marc a eu une bonne idée, c'est de l'idée que Dieu construit. Il construit. Dieu, il est le créateur et l'inventeur du temps, des choses qui prennent du temps, qui se développent. Il a créé l'histoire. Il y a dans la pensée de Dieu une espèce de dynamique, de croissance, de changement, de progrès, de construction. Comment Dieu construit, comment on peut partager aussi en trois morceaux un tel sujet? Alors on a pensé, Dieu construit d'abord la création. Le monde est fabriqué, conduit, construit par Dieu. L'univers matériel comme l'univers spirituel. Et ça c'est Jean-Marc qui va nous en parler. Mais cette création elle ne reste pas vide. Dieu il y a mis des habitants dans la création. Hommes, femmes, nous, les humains. Et ça, c'est Olivier qui va nous parler de comment Dieu construit les êtres humains, comment il les fait se développer. Mais dans ce monde, on n'est pas appelé à rester seul. Ce que Dieu veut, c'est un peuple. Ce que Dieu veut, c'est un royaume. C'est une dynamique. C'est des gens ensemble qui habitent et qui cultivent cette création. Et c'est le sujet que donc, je prendrai pour terminer. Donc on commence par Jean-Marc. Ensuite Olivier et ensuite moi. Jean-Marc.
Voilà, donc je vais me pencher sur Dieu construit et je vais me focaliser sur Dieu construit un monde nouveau. Alors tu passes le slide suivant. Voilà. Alors j'ai choisi ici certaines des illustrations en provenance du jeu Minecraft, où les joueurs bâtissent un monde virtuel. Alors là, mes enfants, en tout cas plusieurs, si ce n'est tous, ont été très, très actifs dans le domaine. Juste au moment où je venais ici, il y a Mathias qui arrivait avec la voiture et quatre amis. Or, ils sont allés faire des balades dans les Alpes, mais ils se sont rencontrés à travers Minecraft. Voilà, donc un petit clin d'œil. Alors, ma brève contribution va se dérouler quand même en quatre volets. Première chose, c'est que Dieu a déjà construit un monde. Ensuite, je vais me pencher sur le fait qu'on a un Dieu qui construit encore. On a un Dieu qui a une planification soigneuse et révélée à l'être humain. Et puis, on a un Dieu qui fait une physique éternelle. Voilà, alors on peut changer de dia. Donc, en lisant le premier livre de la Bible, alors là, je vous ai épargné la lecture, hein, parce que je crois que vous êtes à peu près tous capables de réciter Genèse 1 par cœur. Donc, on constate que Dieu a déjà construit un univers. Et dans cet univers, nous y vivons. Tous les jours, même quand on dort, puis qu'on ne se rend pas compte qu'on vit dans un monde, ben, on y est. Dieu, il a inventé la matière, il a inventé la physique qui fait fonctionner la matière, il a inventé la vie biologique, et il a fait tout cela avec une incroyable variété, dans une immense générosité. Imaginez un univers colossal, pour y placer là, l'être humain. Désormais, Dieu annonce un nouveau monde, avec une perspective d'éternité. Or, cela implique qu'il va falloir avoir une nouvelle physique et une nouvelle biologie où il n'y a pas de dégradation. On peut maintenant se pencher sur la parole de Dieu, alors on change de dia. On va lire dans la première lettre de Shaoul de Tarse aux habitants de Corinthe. Shaoul de Tarse, il est aussi connu comme l'apôtre Paul. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Voilà, donc ça c'est les paroles de l'apôtre qui montrent un changement de fonctionnalité. Donc, il utilise corruptible, moi j'utilisais la notion d'usure ou de dégradation. Et puis, il ressuscite incorruptible, donc changement de fonctionnalité ici, puisqu'on parle de corps, changement de fonctionnalité de la biologie. Donc, ici, on a des indices qui sont assez solides pour penser que Dieu construira un monde spirituel et matériel, avec des nouvelles règles, qui soient, elles, éternelles. Au regard de ce que je pense, le monde spirituel est peu vraisemblable par rapport au texte biblique que j'ai lu. Le grain de blé semé n'a pas la même forme que la plante de blé avec sa tige, ses feuilles et son épi. Et pourtant, c'est la même identité. On dirait que c'est le même ADN. Je me réfère là aussi à la lettre l'évangile écrit par Jean-Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 28. Ben oui, cet évangéliste, il a le même prénom que moi, ce n'est pas de ma faute, hein, ce n'est pas moi qui me suis choisi le prénom. On peut encore lire dans l'Ancien Testament, au prophète Ésaïe, alors là on va. Voilà, merci. Dans les chapitres 65 et 66. Or bon, c'est des chapitres qui sont assez connus, mais ça vaut la peine de s'y repencher. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront même pas à l'esprit. » On parcourt quelques versets et on relit un peu plus loin, toujours au chapitre 65. « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. » Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et encore quelques versets plus loin. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Quand on lit votre nom, c'est-à-dire dans la pensée hébraïque, votre nom, c'est vous-même. Donc vous subsisterez. Ce qui est sûr, c'est que le moment de la fin de notre monde actuel sera défini par Dieu. Et aussi que c'est lui qui va définir, qui va être à la manœuvre pour que le nouveau soit mis en place, pour mettre construire ces nouvelles règles biologiques dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ben on va changer de dia et revenir au Nouveau Testament. Dans l'Évangile qui est écrit ici par Johann ben Sabdi, pêcheur du lac de Galilée, en français courant, ça fait Jean, fils de Zébédée. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ce sont des paroles de Jésus qui nous informent que le nouveau monde qui est annoncé, il ne sera pas improvisé en catastrophe à cause de la folie des humains qui foutent la pagaille. Il est déjà en chantier, ce nouveau monde. En chantier par Dieu lui-même. Le fameux Shaul de Tarse, dans sa lettre aux habitants de Rome, au chapitre 8 et au verset 20 à 22, il met en évidence que toute la création souffre de cette situation du péché de l'être humain. Et il met en évidence aussi que cette création sera libérée et transformée. Pour terminer, nous allons lire dans le livre de la Révélation. On l'appelle habituellement Apocalypse, mais c'est juste une franconisation du mot grec, mais c'est bien Révélation dont on veut parler. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, on voit bien sur l'illustration, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Or là, on ne lit pas quelques versets, hein, ils sont pourtant écrits derrière moi. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Si le monde actuel a une durée qui est finie, en tout cas selon les physiciens, le monde nouveau, lui, sera éternel, si on lit la Bible. Ça implique que tant la biologie que la physique seront nouveaux. Est-ce que Dieu va utiliser en partie sa première création pour construire la nouvelle ? Le texte du grain qui devient épi peut nous le laisser supposer. Mais, comme toute hypothèse, je me garderai bien de la démontrer ou de la démonter. J'en ai pas les moyens, il me manque des éléments. En conclusion de ma partie, on va rappeler que Dieu bâtit ce nouveau monde pour y vivre éternellement avec ses enfants bien-aimés. Vous et moi aussi. Puisqu'on parle des enfants bien-aimés, eh bien, il est temps pour moi de céder le micro à Olivier.
Alors, ma partie concerne, donc, c'est Dieu qui me construit. C'est donc construction personnelle plutôt. Et je retiens de ce qui a été dit par Jean-Marc, ce caractère dynamique associé à ce processus de création avec ces deux étapes évoquées, création de notre monde physique et recréation du monde annoncé dans l'Apocalypse. Donc de mon côté, je vais parler plutôt de cette construction au niveau personnel. Et puis ça me permet de faire un parallèle avec ce qui a été dit et de suivre un petit peu le même plan que celui de Jean-Marc. Je vais suivre un petit peu les mêmes étapes. Lui parle de la construction du monde et de l'univers et moi la construction de l'homme, la construction personnelle. Alors il y a aussi quatre étapes. Une première étape, Dieu m'a déjà construit à ma naissance biologique. Deuxième étape, Dieu m'a reconstruit à ma nouvelle naissance spirituelle. 3. Dieu m'appelle à construire mon être spirituel. 4. La réalisation parfaite de cette nouvelle création se parachèvera après notre mort physique. Alors la première étape, Dieu m'a déjà construit à ma naissance biologique. Nous lisons dans Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. » Il est donc ici question de ma naissance biologique, d'être humain où Dieu m'a façonné dans les entrailles de ma mère. Dieu m'a créé et nous a créés à son image, et nous sommes en quelque sorte le couronnement de sa création. On pourrait dire aussi le but de cette création. Mais voilà que le péché va faire irruption dans ce monde édénique, paradisiaque, et qu'il va entraîner un processus de décréation, entraînant l'humanité et le monde à la finitude, à la mort. Épître de Paul aux Romains 8, aux Romains 8, versets 19 à 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Deuxième étape, Dieu m'a reconstruit. Dieu me reconstruit lors de ma nouvelle naissance. Car dans cette phase de déconstruction, de décréation, la création, le monde et avant tout l'homme ont besoin d'être recréés, d'être reconstruits. Romains 7, versets 21-27. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Misérable que je suis, qui me délivrera donc de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et c'est pourquoi Shaul, comme ça a été dit tout à l'heure, Shaul de Tarse est devenu Paul. Ah ben voilà, il a changé de prénom, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, on va se tourner vers les choses nouvelles. Nous aussi, nous avons été appelés par Dieu à naître de nouveau, afin de faire mourir les œuvres de notre corps mortel, oubliant ce qui est derrière, pour tendre vers ce qui est devant, avec dans cette nouvelle création, cette nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, versets 16 et 18. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Troisièmement, Dieu m'appelle à construire mon être spirituel. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 6. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Donc oui, c'est cette pierre angulaire que l'on peut mettre à notre édifice, c'est la base de notre édifice, et c'est à partir de là que nous construisons cette nouvelle maison spirituelle, et ce qui est notre être intérieur, qui va se renouveler de jour en jour et qui se construit au fur et à mesure. Plus loin dans Éphésiens, chapitre 2, versets 20 et 22, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Toujours cette idée de construction avec cette pierre d'angle qui est là, qui est à la base de la fondation. Il y a aussi cette image que nous sommes les pierres vivantes pour l'édifice de Dieu. Ça, c'est la partie dont nous parlera Frédéric tout à l'heure. C'est vrai que voilà, donc nous sommes là, des corps spirituels, et ensuite, ensemble, nous formons cette église et cette nouvelle communauté. Et on en parlera tout à l'heure. Dieu est à l'œuvre depuis le début de notre création biologique, d'accord, mais il l'est encore plus lors de notre nouvelle création. Nous avons à construire, nous avons à bâtir, à nous développer spirituellement. Et comme le rappelle Paul, si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à notre dernier souffle, nous sommes appelés à la sanctification. Étymologiquement, sanctification veut dire devenir saint. Devenir saint, c'est-à-dire il y a un travail, il y a un effort qui est à faire, avec l'aide de Dieu bien entendu, avec toutes les armes que Dieu nous donne, mais il y a tout un process, il y a tout un processus, il y a tout un chemin sur lequel nous avançons, et ça ne s'arrête jamais, on n'est jamais à la retraite. Quelque part, jusqu'à notre dernier souffle, si Dieu nous prête encore vie, c'est que nous devons avancer, c'est que nous avons encore quelque chose à faire, c'est que nous avons encore quelque chose à dire. Non, tout ne s'arrête pas à la retraite, mais quelque part c'est aussi réjouissant. Donc jusqu'à notre dernier souffle, nous devons avancer, nous sommes en chemin. Et nous sommes maintenant un nouveau temple spirituel, c'est-à-dire que c'est ce temple, c'est plus un temple de pierre, c'est nous sommes les pierres vivantes, nous sommes ce temple de Dieu, quelque part Dieu habite en nous, et c'est assez aussi, il faut développer aussi cet aspect dans notre propre vie aussi pour pouvoir le transmettre et pour pouvoir aussi rayonner vers ceux qui nous entourent. Quatrième partie concerne la réalisation parfaite de cette nouvelle créature, de cette nouvelle création, qui se parachèvera, comme on l'a précisé tout à l'heure aussi, après notre mort biologique, après notre mort physique. Dans Philippiens 3, versets 12 et 13, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. » Donc, processus dynamique, j'oublie ce qui est en arrière, je vais en avant, même si je suis avancé en âge, j'oublie ce qui est en arrière. Ok, Dieu m'a accompagné, Dieu m'a guidé jusque-là. S'il me prête vie, c'est pour continuer jusqu'au bout. Je regarde et je me tends vers ce qui est devant. Et je ne suis pas systématiquement nostalgique de ce que j'ai fait avant, même si une grande partie de notre vie s'est écoulée. Quelque part, on doit en être appelé aussi à tendre, devant. Et tendre devant, c'est aussi une espérance. Un processus dynamique parce que tout va se parachever après cette mort. Et quelque part, on est donc effectivement, comme va le dire Paul dans Romains 8, 18-25, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, on l'a déjà dit, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant cette adoption, la rédemption de notre corps. » J'aime cette image, vraiment, que la création souffre, elle soupire après la révélation. Il n'y a qu'à voir ce monde malade, ce monde des guerres, ce monde des maladies, ce monde difficile dans lequel nous sommes. Nous sommes là-dedans, quelque part, on ne peut pas s'échapper de là. Et quelque part, ben oui, c'est une souffrance, mais il y a une espérance. C'est en espérance, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc on va tendre à cet idéal, quelque part, jusqu'à notre dernier souffle. On va se construire jusqu'à ce qu'on puisse donc être accueilli aussi par le Seigneur après notre mort, où là, vraiment, ce sera parachevé, où effectivement, on a parlé du grain qui est semé en terre, il va mourir, et ensuite, il va donner du fruit, donc après cette mort. Où là, vraiment, le but sera atteint. Mais maintenant, bah, c'est une espérance, c'est en espérance que nous, on est sauvés. Et on doit tendre à ce but, à cet objectif. Et puis, ben voilà, il n'y a pas trop d'une vie, jusqu'au bout. Ben, Dieu me prête vie encore à 60 ans, Dieu vous prête vie actuellement. Eh ben, on continue, on est en chemin. C'est vrai qu'il y a cette notion dynamique, hein, cette dynamique aussi donc, qui doit nous habiter. Donc on est en marche, on n'est pas arrêté, on n'est pas né une fois pour toutes, on n'a plus rien à faire, non. Il y a encore ce processus jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est assez encourageant, moi, je trouve, cette perspective, que finalement, bah, on a toujours quelque chose à faire dans cette vie, bien sûr avec l'aide de Dieu et avec bah, l'aide aussi de l'Église. Et c'est la transition que j'essaie de faire, donc la notion d'Église dont va parler maintenant Frédéric.
Donc ma part, c'est non pas des individus, mais le groupement, la collectivité. Qu'est-ce qu'on est ici? Une collectivité. On est une paroisse, on est l'Église, on est le corps de Christ. Il y a toutes sortes d'expressions. Cette notion de collectivité, elle est très centrale et c'est une chose que Dieu construit. Comment aborder ça vraiment? En fait, j'ai parlé d'église, j'ai parlé de paroisse. Il y a de multiples images que Dieu emploie, que la parole emploie pour nous parler de cette collectivité. Par exemple, alors je disais juste, j'ai noté un certain nombre de points, mais c'est assez impressionnant. Quand il parle de l'église essentiellement, mais puisque c'est cette collectivité à laquelle on appartient aujourd'hui, il est appelé un royaume que Dieu gouverne. Elle est appelée une église, ce qui veut dire une assemblée. C'est un endroit autour de Dieu, qui nous rassemble autour de lui. Elle est appelée une maison, un bâtiment, c'est un tabernacle aussi, il y a plusieurs noms, un temple aussi. C'est là où Dieu demeure. Il habite au milieu de nous. Elle est appelée un temple. Un temple, c'est l'endroit où Dieu est adoré. On est appelé une famille. L'Église, c'est une famille dont Dieu est le Père. On est appelé le corps, un corps dont Christ est la tête. On est appelé l'épouse, dont Christ est l'époux. On est appelé un troupeau, des brebis, un troupeau dont il est le berger. On est comparé comme ensemble à un champ ou à une vigne dont Dieu est le cultivateur. On est appelé un édifice dont il est le constructeur. On est appelé une nation dont il est le roi, une cité dont il est le temple, une prêtrise dont il est le Dieu. Il y a une multitude d'illustrations pour parler des croyants comme un groupe, comme une collectivité. Et je crois que ça nous donne une idée de l'importance de cela. S'il y a autant de façons de faire, de dire les choses, c'est parce que c'est central. Et chaque fois, vous l'avez remarqué, je l'ai fait ressortir, c'est Dieu qui est au centre, Dieu qui agit. C'est autour et pour Dieu que tout ceci existe. Il veut cette famille, il veut cette collectivité. Ça fait partie du cœur du plan de Dieu. Et ce qui est très frappant, c'est que dans toutes ces images, c'est une chose dynamique, c'est une construction. On peut prendre un verbe qui correspond à ces mots. Construire, former, développer, rassembler, cultiver, compléter, nourrir, arroser, diriger. Il y a sans arrêt une intervention, un changement, une dynamique de transformation, de grandeur. Et chaque fois Dieu est au centre, il est le constructeur, c'est celui qui produit ceci, qui rassemble ceci, qui crée ces choses-là. Dieu est le constructeur. Toutes ces choses-là qui représentent cette collectivité que nous sommes, c'est toujours Dieu qui le forme. Comme il nous a créés, comme il a créé cet univers, il crée aussi cette communauté. Pour prendre des versets, il y a un verset dans Hébreux 11 qui dit d'Abraham qu'il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La cité, une image de l'Église, une image de la collectivité des croyants, Dieu en est l'architecte, il décide de la structure et il est le constructeur, c'est lui-même qui agit. On est Église parce que Dieu crée l'Église. Un autre verset, c'est un peu aussi dans les Hébreux, « Celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Une construction que Dieu construit. Et c'est une réalité dès le début de la création. Avant la création, Dieu travaille tout au long. Il y a une œuvre de Dieu pour rassembler et créer ce peuple. Dès l'origine, à la création, qu'est-ce qu'il crée ? Hommes et femmes. Déjà là, il y a une idée de collectivité. Ensuite, il dit à l'homme et à la femme de se multiplier. On voit, il y a cette idée, cette volonté de Dieu de grandir, de créer de nouveau tout un peuple. Et tout l'Ancien Testament nous rappelle cette histoire-là. La création, ensuite vient des familles, puis ensuite vient Abraham, ensuite vient la famille d'Abraham, ensuite vient le peuple d'Israël, etc. Des nations se créent. Il y a un immense développement qui est voulu par Dieu. Il veut peupler cette terre d'hommes et de femmes comme nous, mais pas isolés, entre eux. Des familles, des nations, vraiment une collectivité réunie. Alors. Et on l'a rappelé, ça ira jusqu'au bout. L'Église, elle existe, elle existera jusqu'au bout. Elle est appelée dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. C'est une image de l'Église. Ce que nous sommes en tant que croyants, c'est en tant qu'Église qu'on entrera dans cette nouvelle création. Cette idée de groupe, de famille, de rassemblement, de qu'est-ce que j'ai appelé ça, de collectivité, c'est pour l'éternité. Et cette dynamique qu'on vit aujourd'hui se vivra dans l'éternité. La création sera renouvelée, mais elle restera une création matérielle. Nous serons transformés, mais nous resterons les individus que nous sommes maintenant. Et toute la collectivité que nous vivons aujourd'hui continuera de vivre dans l'éternité. Comment parler et comment dire, comment Dieu construit tout cela? Alors plutôt que de multiplier les choses, j'ai pensé à trois caractères fondamentaux, trois caractères importants de ce que Dieu fait. Trois pensées de Dieu. La première pensée, c'est Dieu pense variété, il pense différence, il pense multiplicité. On est tous différents, plus différents qu'on le pense souvent. On se voit tous avec le filtre de qui on est, donc tout le monde nous ressemble. Mais si on creuse un peu, si on apprend à connaître les gens, on se rend compte qu'il y a des grosses différences entre nous. Et c'est une chose merveilleuse. Ça fait partie de... Dieu ne veut pas créer des copies conformes. Chacun de nous est spécifique. Chacun de nous a son caractère. Et chacun de nous a cette... Comment dire ça? Des circonstances différentes. On n'est pas tous égaux. Certains ont des vies faciles. En tout cas, extérieurement, chacun... Des vies qui se déroulent facilement. D'autres ont des vies extraordinairement difficiles. D'autres sont brillants, intelligents, ont des possibilités multiples. D'autres sont très limités dans leur intelligence. D'autres sont forts, d'autres sont faibles. Il y a une multiplicité. Chacune de ces caractéristiques est importante. Et ces différences font partie de cette création d'un groupe. Si on est tous identiques, il n'y aurait pas cette dynamique de groupe, de famille, de collectivité. Les différences ont un côté négatif. Ben, quand on est différent, ça a tendance à créer des conflits. Mais les conflits sont porteurs de vie, les conflits sont porteurs de changement. S'il y a collision, ben, il faut résoudre ces conflits. Et ça crée toute une dynamique. Dieu nous veut justement vivre dans une dynamique de relation. Il y a tout un cheminement qui rend la vie finalement intéressante. Ce que je suis, c'est ce que Dieu a voulu. Et il ne l'a pas voulu pour moi-même. Ce que je suis, Dieu l'a voulu pour les autres aussi. On est créé pour avoir sa place dans cette collectivité. Nos différences, elles sont là pour ça, pour qu'on puisse être à sa place dans la collectivité. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est que Dieu pense développement, évolution, il pense progrès, il pense histoire, il pense déroulement dans le temps. Et c'est aussi une chose que je trouve très encourageante. S'il y a changement, ça veut dire qu'il y a espoir. S'il y a changement, ça veut dire qu'il y a intérêt, il y a des nouveautés, il y a toutes sortes de... Il y a l'espérance. Si tout était statique, ce serait triste. Non, tout est dynamique, tout y a changement, il y a cette multiplicité l'histoire des différents peuples n'est pas la même, l'histoire des différentes familles n'est pas la même, l'histoire de vos différents enfants ne sera pas la même non plus. Chacun vit sa vie de A à Z et dans chaque étape, on apprend. Dans chaque étape, on change. Dans chaque étape, il y a quelque chose qui se passe qui honore Dieu. Et la collectivité, l'Église, est importante pour ça. Elle doit refléter Dieu au travers de cette dynamique de relation. Pourquoi? Mais ça permet de manifester concrètement, dans le présent, les différentes facettes de qui Dieu est, de comment il interagit avec l'un ou l'autre. On connaît Dieu au travers de des manières dont il nous traite, dans la manière dont il traite nos prochains, dans la manière dont il traite les nations, dans la manière dont il traite des églises. Et ces immenses différences manifestent toutes sortes de caractères de Dieu. Il y a un beau verset dans Éphésiens 3 qui dit que les dominations, c'est-à-dire les autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire tous les habitants du ciel, connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ces différences, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Être différent, c'est très positif. L'Église apprend au ciel les facettes de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on trouve des fois que l'Église, elle n'est pas si glorieuse que ça. Qu'est-ce qu'elle montre au ciel ? C'est qu'on mesure mal ce que Dieu fait. Dans les choses qui nous semblent négatives, elle participe aussi de quelque chose qui honore Dieu. Il y a dans, c'est dans la Genèse, au chapitre 50, une phrase que je trouve importante. C'est Joseph qui dit à ses frères, « Vous aviez pensé du mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien. » Il y a des traductions qui disent « Vous avez pensé du mal contre moi, Dieu l'a tourné en bien. » Mais c'est une mauvaise traduction, c'est vraiment « Penser du mal, penser en bien. » Ce que nous, on juge mal, le péché, des choses scandaleuses comme ce qui s'était passé, Dieu le pense en bien. Il a prévu ceci comme étant une bonne chose. Donc, même dans les choses où on a l'impression qu'on déshonore Dieu, il y a quand même un côté qui révèle qui est Dieu, qui honore Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Je me dis, une leçon, c'est que ça nous apprend d'apprécier ce côté-là, d'apprécier l'inachevé, de faire confiance à Dieu dans ce qu'on ne comprend pas, au contraire, admirer Dieu dans ce qui nous dépasse. C'est la base de la foi, finalement, et de l'espérance. C'est de compter sur Dieu. On ne comprend pas, on ne voit pas, mais on sait, on a reçu cela. Et c'est l'Église en tant que telle montre ces choses pour Dieu, mais pas seulement l'Église abstraite, notre paroisse montre quelque chose de Dieu dans ce monde. Votre famille, à vous, à moi, montre quelque chose de Dieu dans ce monde. Chaque individu, finalement, montre quelque chose de Dieu dans ce monde, que ce soit bien, que ce soit mal. Troisième point, c'était Dieu pense communion, communauté, relations variées. On n'est jamais une personne tout seul. Ça n'existe pas, un individu. On est parce qu'on est plusieurs. On est toujours une communauté aux yeux de Dieu. Dieu nous voit aux yeux de Dieu, oui. Dieu nous voit comme un corps, il nous voit comme quelque chose de communautaire. On est des individus très variés, mais Dieu nous voit comme une communauté. Et c'est, je crois qu'on l'oublie trop facilement. Et c'est très frappant dans la Bible. Il y a des tas de versets qui nous sont adressés où Paul, par exemple, parle de nous ou de vous. Et on a toujours l'impression qu'il nous parle à nous. Mais c'est un pluriel. Et ça a du sens que ce soit un pluriel. Parce que pour Dieu, il n'y a pas cette division qu'on a de nous, il y a moi et les autres. Pour Dieu, il y a moi lié aux autres, ensemble. L'individualisme, c'est une menace, c'est quelque chose qui est mauvais, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. On est dépendant les uns des autres, on est liés les uns aux autres. Ce matin, on avait un moment de communion à Suzy et moi, et puis d'habitude elle demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Ou alors moi, comme je sais qu'elle va le demander, je dis « Ah, je t'aime !» Et cette fois, elle a voulu me le dire à moi. Mais elle a dit une chose qui m'a vraiment frappé, elle ne m'a pas dit « Je t'aime », elle a dit « Je nous aime !» Je nous aime, nous le couple. Et je me suis dit « Mais il y a quelque chose de profond là derrière !» On ne peut pas dire « je t'aime » dans un certain sens, on peut toujours dire « je nous aime ». Parce que l'amour, c'est quelque chose de réciproque. L'amour, Dieu nous aime et on aime Dieu. J'aime Suzy, elle m'aime, mais ça marche parce que c'est réciproque. Je nous aime. Alors, merci Suzy, j'ai trouvé que c'était une très bonne... Mais simplement, l'individualisme qui nous caractérise et qui caractérise, entre autres, la civilisation occidentale, c'est une malédiction et on y est profondément influencé. On a vraiment... Franchement, je suis très conscient de ça, mais je suis aussi conscient que je ne suis pas assez conscient de ça. On se fait piéger de multiples manières. Et dans tous les conflits qu'on peut voir, dans toutes les histoires, ce côté-là, moi, je suis tout seul face aux autres... Et destructeur, profondément destructeur. Alors en conclusion, je vais la lire. Vivre l'Église dans sa réalité pratique, vivre la communion des croyants n'est pas facultatif. C'est le cœur du plan de Dieu, depuis du début jusque dans l'éternité. Il y a une chose qui me frappe quand on parle de l'Église, il dit l'Église c'est Christ. L'Église, la communauté, c'est Christ. On est en Christ. Il y a un lien avec Jésus qui est profond. Et en tant que communauté, l'Église, c'est Christ. On ne vit Christ que dans et par la communauté. Aimer l'Église, Christ l'aime. Aimer les différences. Espérer et croire au progrès jusqu'à la fin. Amen.